Manila Kidza au micro. Excellente soirée à vous tous.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du mercredi 22 juillet 2020. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Au Nigeria, 11 personnes ont été tuées dans une attaque mardi soir à Gorangan, dans l'état de Kaduna. L'ex-ministre des Affaires étrangères ivoirien Marcel Amontano s'est déclaré candidat à la présidentielle d'octobre. En République démocratique du Congo, fin de l'état d'urgence sanitaire dû au coronavirus. Androum Langeni, dernier compagnon de route de Nelson Mandela, est mort à l'âge de 95 ans. Washington a ordonné à la Chine de fermer son consulat à Houston, qu'il accuse d'espionnage aux États-Unis. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Nigeria, 11 personnes ont été tuées dans une attaque menée mardi soir par des hommes armés dans un village de l'état de Kaduna. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Des hommes arrivés en moto ont pris d'assaut le village de Goragan à la tombée de la nuit avant d'ouvrir le feu sur des habitants, selon un responsable administratif. Ils ont tué 11 personnes et 15 autres sont grièvement blessés. Les assaillants ont également incendié plusieurs maisons, une église, une voiture et des motos, a indiqué ce responsable. Le chef de la communauté locale, Jonathan Asake, a ajouté que des centaines d'habitants ont fui le village craignant de nouvelles attaques. Nous avons comptabilisé 559 personnes qui ont trouvé refuge dans une école dans la localité voisine de Zonkwa, trop effrayées pour rentrer chez elles, a-t-il dit. Lundi, des hommes armés qui étaient également arrivés en moto ont tué 18 personnes pendant un mariage dans un village voisin. La présidence nigériane a déclaré mardi que les violences dans le pays sont plus compliquées que ce que de nombreuses personnes sont prêtes à admettre. Le sud de l'état de Kaduna est le théâtre de violences entre agriculteurs et éleveurs au sujet des droits de pâturage et d'eau. Les autorités de l'état ont tenté d'initier une trêve sans succès.
Dans le sud-est du Nigeria, un policier a été abattu et 4 employés chinois d'une carrière ont été enlevés dans la nuit de mardi à mercredi, selon la police de l'état de Cross River. Les recherches sont en cours pour retrouver les 6 hommes armés de fusils d'assaut. En Côte d'Ivoire, l'ex-ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, s'est déclaré candidat à la présidentielle d'octobre. Il avait démissionné le 19 mars après la désignation de feu Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP. Des voix s'élèvent au sein du parti au pouvoir pour demander au président Alassane Ouattara de se présenter pour un troisième mandat. Monsieur Ouattara avait exclu sa candidature cette année. Du côté de l'opposition, l'ex-président Henri Konan Bédié est candidat du PDCI, tandis que le FPI, divisé de Laurent Gbagbo, n'a pas encore désigné de candidat. L'ancien Premier ministre Guillaume Soro s'est déclaré candidat, mais il vit en exil en France après sa condamnation par la justice ivoirienne pour tentative d'insurrection. L'Organisation internationale de la francophonie va auditer le fichier électoral biométrique du Niger pour les élections de fin d'année sur demande du président Mohamedou Issoufou, a annoncé la présidence nigérienne. En 2010 et 2016, la francophonie avait déjà contrôlé le fichier électoral contesté par l'opposition. Le premier tour de la présidentielle, couplé aux législatives, est fixé au 27 décembre. Fin de l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a annoncé un plan de retour à la normale en 3 étapes après 4 mois de restrictions dues au coronavirus. Le point avec Eddy Issango.
Les commerces, banques, restaurants, cafés et autres entreprises ont rouvert aujourd'hui, comme l'a annoncé hier nuit le président Félix Tshisekedi. Les écoles et universités reprendront leurs activités les 3 août, les 15 août pour les églises, lieux de culte, stades, lieux de spectacle, les déplacements interprovinciaux, les aéroports et les frontières. Mais c'est Tshisekedi a appelé les Congolais à continuer à respecter les gestes barrières et autres mesures de prévention. Tout rentre quasiment à la normale, excepté les veillées mortuaires publiques qui resteront désormais interdites. L'état d'urgence ainsi que les mesures qui l'ont accompagné ont, selon M. Tshisekedi, réduit la létalité des Covid de 11 à 2,4% et classé la RDC à la 9e position en Afrique pour ce qui est des cas et à la 12e pour les décès. Les pays comptent 8 626 cas et 196 sont morts.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, d'intenses combats ont opposé les rebelles du M23 aux forces armées dans le territoire du Rutshuru, à la lisière du parc national des Virunga, selon la société civile du Nord Kivu. Une position de l'armée a été attaquée dans cette région au nord de Goma et au moins 3 soldats ont été tués et 1 a été blessé, ont annoncé de leur côté les chercheurs du baromètre sécuritaire du Kivu. Une figure de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, Andrew Mlangeni, compagnon de route et de captivité de Nelson Mandela, est mort à l'âge de 95 ans. Nani Talani.
Andrew Mlangeni avait été hospitalisé le 14 juillet à Pretoria pour des douleurs abdominales selon la présidence sud-africaine. Son décès marque la fin d'une génération et place notre avenir dans nos mains, a déclaré le président Cyril Ramaphosa. Andrew Mlangeni était le dernier survivant du procès de Rivonia de 1963 à 1964 où plusieurs membres de l'ANC dont Nelson Mandela ont été condamnés à la prison à perpétuité. Monsieur Mlangeni avait finalement passé 26 ans derrière les barreaux. Il était le dernier monument d'une génération de Sud-Africains qui ont renoncé à leur liberté, leur carrière, leur vie de famille et leur santé pour que nous soyons tous libres, a réagi le prix Nobel de la paix Desmond Tutu. Il revient maintenant aux plus jeunes de reprendre le bâton de témoin qu'ils ont tenu et de terminer le chemin, a-t-il ajouté. L'apartheid a officiellement pris fin en 1994 avec l'élection de Nelson Mandela comme premier président noir, mais les disparités sont encore criantes entre la majorité noire et la minorité blanche en Afrique du Sud.
Les États-Unis ont annoncé avoir mené une frappe aérienne en Somalie contre le groupe État islamique, tuant 7 djihadistes près du port de Bosaso sur le golfe d'Aden. Des militaires américains se trouvaient dans la zone pour assister les forces somaliennes, a précisé AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique. La justice algérienne a condamné à 6 mois de prison, dont 3 mois avec sursis, 2 militants du Irak placés en détention provisoire depuis le 5 mai. Ahmed Sidi Moussa et Yasser Kadiri vont sortir la semaine prochaine, a indiqué leur avocat Mustapha Bouchachi. Le procureur avait requis 10 ans de prison pour chacun d'eux.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Washington a ordonné la Chine de fermer son consulat à Houston et Beijing a menacé à son tour les États-Unis de représailles. Claire Morin-Gibourg.
Selon l'administration Trump, le consulat a dû être fermé afin de protéger la propriété intellectuelle américaine et les informations privées des Américains. Selon le département d'État, le régime communiste chinois s'est livré à un espionnage massif, s'est mêlé de politique intérieure, a exercé des pressions sur des responsables économiques et menacé des familles sino-américaines résidant en Chine. Selon plusieurs médias de Houston, les pompiers ont été appelés hier soir au consulat pour des documents qui auraient été brûlés dans la cour du bâtiment, mais les secours n'ont pas été autorisés à entrer dans l'enceinte du consulat. L'annonce de cette décision intervient sur fond de tensions exacerbées entre les deux puissances sur plusieurs fronts, dont la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, la situation des droits de l'homme et le traitement des Ouïghours. Hier, 2 Chinois ont été inculpés pour des attaques informatiques contre des entreprises engagées dans la recherche d'un vaccin anti-Covid-19. La Chine a condamné cette décision, affirmant qu'il s'agissait d'une provocation politique. Elle a par ailleurs mis en garde ses 300 000 étudiants chinois présents sur le sol américain contre les interrogatoires arbitraires qu'ils pourraient subir.
La gouverneure de Tokyo a appelé ses administrés à rester chez eux à la veille d'un long week-end au Japon, alors que le nombre de nouveaux cas de coronavirus est en nette augmentation dans la capitale nippone. La pandémie a fait plus de 600 000 morts dans le monde et près de 15 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 142 000 décès et 3,89 millions millions de cas déclarés devant le Brésil, le Royaume-Uni, le Mexique et l'Italie. D'ailleurs, le gouvernement américain a commandé 100 millions de doses d'un potentiel vaccin contre le coronavirus pour 1,95 milliard de dollars, développé par l'alliance germano-américaine BioNTech-Pfizer. Il pourrait acquérir jusqu'à 500 millions de doses additionnelles, précisent les deux laboratoires qui doivent bientôt commencer des essais cliniques. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a accusé le directeur de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus d'avoir été acheté par le gouvernement chinois. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Lyndon.
Le groupe Radisson Hotel annonce qu'il va ajouter 6 nouveaux hôtels à son portefeuille africain, notamment au Mali, au Nigeria, au Ghana, en Éthiopie et 2 hôtels de plus en Afrique du Sud. Le groupe Radisson portera à 100 le nombre de ses hôtels sur 32 marchés africains. Les chaînes hôtelières mondiales comme Marriott International et Yacht Hotel ont accru leurs investissements en Afrique ces dernières années. Les procureurs italiens demandent que les acteurs pétroliers majeurs Eni et Shell soient condamnés à une amende de 900 000 euros chacun et que certains de leurs dirigeants actuels et anciens, y compris le PDG d'Eni, Claudio Descalzi, soient emprisonnés à des peines allant jusqu'à 8 ans dans le cadre d'un procès pour corruption présumée au Nigeria. Les procureurs italiens affirment qu'Eni et Shell ont acquis un champ pétrolifère nigérian en 2011, sachant que la majeure partie du prix d'achat de 1,3 milliard de dollars irait à des politiciens et à des intermédiaires sous forme de pots de vin. La compagnie Qatar Airways a demandé mercredi à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à Bahreïn et à l'Égypte des compensations de 5 milliards de dollars pour lui avoir interdit l'accès à leur espace aérien. Dans un communiqué, la compagnie a indiqué vouloir obtenir réparation de ces pays pour le blocus qui a écarté Qatar Airways de leur marché et l'a empêché d'utiliser leur espace aérien.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Rebondissement dans la course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. La fédération ne reconnaît pas le parrainage accordé à Didier Drogba par un groupe d'arbitres dissidents de l'Amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire. Soutenu lundi par quelques membres des arbitres, la star ivoirienne a effectivement reçu son parrainage hier dans son QG. Invité à la chaîne de télé La 3, Zito Claude, directeur exécutif adjoint de la fédération, via un communiqué, a fait savoir que l'instance fêtière est contre la décision prise par les arbitres dissidents, celle de parrainer la candidature de Drogba. Selon ce communiqué, la FIF ne reconnaît que Souleymane Koulibaly, qui a parrainé Souri Diabaté comme étant le président de l'Amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire. Ce dernier a été élu en 2018 pour un mandat de 4 ans en présence de Danon Roland, qui s'autoproclame aujourd'hui responsable de l'association par intérim. Au Burkina Faso, Aristide Bansé a mis un terme à sa carrière internationale. Buteur emblématique de la sélection burkinabé, l'actuel attaquant du Oroya AC de la Guinée, arrête sa carrière internationale à 35 ans. Il a officiellement annoncé au sortir d'une audience avec le président Roch Kabore. Aristide Bansé.
Pour moi, c'était le moment d'arrêter, voilà, de laisser quand même cette sélection. Vu que quand même, j'ai assez joué. Hein. En tout cas, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir de porter le maillot national. La place que j'ai laissée là, c'est au plus méritant. C'est comme ça. L'équipe nationale, ça n'appartient pas à un jeune, ça n'appartient pas à quelqu'un, à qui que ce soit. L'équipe nationale, ça appartient au plus méritant et au plus battant. Celui qui a envie de mouiller le maillot pour son pays là, c'est lui qui porte le maillot de l'équipe nationale. Mais je vais voir comment je me sens, si je vais continuer avec l'Oréa ou si je vais m'arrêter là.
Aristide Bansé, désormais ex-attaquant des étalons du Burkina Faso, international depuis 2003 et auteur de 25 réalisations en 79 sélections. Le natif d'Abidjan a mené les étalons à la finale de la CAN 2013, perdu face au Nigeria 0-1. Il a connu une vingtaine de clubs au cours de sa carrière et a aussi décroché le bronze lors de la CAN 2017 au Gabon. Ici, en NBA, les votes pour désigner le meilleur joueur de la saison et attribuer les autres trophées individuels ont débuté avec le vote des médias. Outre le trophée de MVP, brigué par le favori à sa propre succession, Gianni Antetokounmpo des Milwaukee Bucks et la superstar des Lakers, LeBron James, des journalistes du monde entier en une semaine pour également désigner le défenseur de l'année, le rookie de l'année, entre autres. Le championnat doit redémarrer le 30 juillet. Les play-offs commenceront le 17 août et les finales se termineront au plus tard le 13 octobre.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, de violents affrontements sont signalés depuis le 8 juillet à Pinga. Plus de 25 civils ont été tués et plusieurs personnes ont été déplacées. Dans la capitale de la province, Goma, des voix s'élèvent. 23 organisations de la société civile se sont adressées au président Félix Tshisekedi. Le point avec notre correspondant à Goma, Charlie Kazereka.
Destitué de la tête de commandement par ses anciens collaborateurs depuis le 8 juillet, le chef de guerre de Walikale, Choumirai Guidon, a depuis lancé une guerre contre Gilbert Bouira, son remplaçant et son ancien bras droit. Les combats de ce lundi ont fait de nombreux blessés évacués à l'hôpital de Pinga, qui accueille aussi les déplacés. Patrick Mundeke, l'un des notables de Walikale.
L'armée sous-traite la sécurité de la population. Les conséquences sont celles que nous voyons à Pinga. Un moment, Guidon opère carrément avec les FARDC pour traquer les FDLR. Et d'autres endroits, il opère seul. Et hier matin, vous avez vu, 25 morts. Et ça pose quand même des problèmes. Je me demande, est-ce qu'il n'y a pas une politique dans ces pays pour pérenniser la guerre à l'est de la République?
Ce lundi, Guidon Choumirai a quitté la cité de Pinga, située à plus de 150 km à l'ouest de Goma, l'abandonnant sans affrontement aux troupes des FARDC qui se sont interposées entre les deux factions en conflit dans cette cité de Pinga, selon les porte-parole des FARDC au Nord Kivu. Des sources locales signalent une vingtaine de morts depuis le début des affrontements. 23 organisations de la société civile appellent l'armée congolaise à déployer des troupes dans cette partie de la province. Étienne Kambale est membre de la société civile Nord Kivu.
Notre mission en tant qu'organisation de la société civile, c'est d'alerter, demander ce qui suit. Au ministre de la Défense, d'évaluer les moyens mis à la disposition des opérations Sokola 1 et 2, et si ces moyens arrivent à destination. De procéder à l'évaluation des opérations militaires Sokola 1 et 2.
L'autre situation inquiétante, les chefs de guerre qui se sont rendus récemment au FARDC déplorent les conditions dans lesquelles ils vivent. Plus de 90% d'entre eux sont déjà retournés dans leur milieu d'origine. J'étais Mekakoule, général autoproclamé, jadis basé dans les parcs de Virunga, s'exprime ici.
Nous nous sommes rendus à l'écoute de l'appel du chef de l'État. Nous ne voulons plus rentrer en arrière. Nous demandons au chef de l'État de tenir sa promesse parce que nous avons encore la possibilité d'aller sensibiliser les autres combattants qui sont rentrés dans les maquis. Moi, personnellement, je suis venu avec 280 combattants, mais actuellement, il ne me reste que 36.
Le gouverneur Karlin Zanzoukassivita a réuni les notables de Walikale qui sollicitent l'appui de la MONUSCO dans ces conflits. Le groupe armé de Guidon Choumirai Mouissa est basé dans les riches territoires de Walikale. Les opérations militaires de ce groupe armé touchent actuellement trois autres territoires, à savoir les territoires de Lubero et celui de Masisi. L'armée congolaise n'a jamais lancé des opérations militaires contre ces groupes armés, accusés de plusieurs violations des droits de l'homme par l'ONU. Le groupe armé Nduma Defense of Congo s'est dit protecteur de la tribu Nyanga contre la rébellion rwandaise des FDLR. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 87.2 FM.
Au Nigeria, les établissements scolaires et universitaires sont fermés pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le pays compte plus d'écoles privées que publiques et depuis 4 mois, les enseignants du privé ne sont pas payés et survivent grâce à des petits boulots. Un reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
L'incertitude demeure sur une date réelle pour la réouverture des classes au Nigeria. Beaucoup d'enseignants des nombreuses écoles privées du pays ne savent plus où donner la tête. Ils ne travaillent pas et les salaires sont impayés depuis le mois de mars. Jerimaya Ewerere enseigne dans un lycée privé de la capitale, Abuja.
At the first time, I was confused. Au début, tout était vraiment confus. Je ne savais pas quoi faire, mais j'étais obligé de garder courage. J'ai organisé des cours de révision à la maison pour les enfants. En plus, je suis aussi blanchisseur, mais le problème présentement, je n'ai pas de blanchisserie. Donc, quand les gens m'appellent, je me rends chez eux pour le repassage et je fais le linge.
Les enseignants des écoles privées se sentent abandonnés à leur sort. Ils se plaignent de ne recevoir aucune aide des autorités fédérales et des États de la Fédération. Beaucoup d'entre eux se tournent vers d'autres activités pour survivre. Nike Atanda et Gift Adjigi sont enseignantes dans une école privée à la banlieue d'Abuja.
Depuis le début du confinement, nous n'avons pas reçu nos salaires, rien du tout. Nous vivons par la grâce de Dieu. Je vends les masques faciaux présentement et c'est ce qui m'aide. Vous imaginez une enseignante qui vend maintenant des masques faciaux? D'autres vendent du maïs grillé. Ce n'est pas facile, seul Dieu nous aide.
It has not been easy, but God has
ce n'est pas du tout facile, mais Dieu nous assiste. Nous, qui sommes des enseignantes des écoles privées, nous devons trouver d'autres choses à faire. Actuellement, je fais des gâteaux et je fais du ravitaillement de fruits pour survivre.
Le paiement de salaire est un énorme défi pour les propriétaires d'écoles privées, avec la fermeture continue des écoles qui sont leur principale source de revenus. Le complexe scolaire privé Total Cha Model School est fermé depuis 4 mois. Pour Uwebo Locke Johnson, fondateur de ces complexes, la situation est vraiment difficile.
La situation est grave. Je prends l'exemple sur moi-même. J'ai payé le mois de mars et depuis je n'ai pas pu m'en sortir. Parfois je les appelle pour quelques produits alimentaires, mais cela est insuffisant. Dans mon établissement, j'ai un staff de 60 enseignants. Honnêtement, les choses sont très dures pour
eux. Des négociations sont en cours pour la réouverture des écoles. Le ministère de l'Éducation nationale avait annoncé une reprise probable des cours pour les élèves des classes d'examen début juillet. Mais l'augmentation du nombre d'infections au Covid-19 a obligé le gouvernement fédéral à revenir sur sa décision. Le Nigeria a recensé plus de 37 000 cas confirmés avec 805 décès et un peu plus de 15 000 guéris. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous cette semaine dans Washington Forum. Alassane Ouattara sera-t-il candidat à un troisième mandat? Le débat est relancé après la mort du premier ministre Amadou Koulibaly, qui était choisi pour défendre les couleurs du RHDP à la présidentielle d'octobre. Ce, au sein de son parti, qui se prononce en faveur de sa candidature, estime que cela éviterait une bataille de succession. S'il se présente, il fera face à l'ancien président Henri Konan Bédié. Rendez-vous jeudi 23 juillet à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Alors que les cas de Covid-19 ne cessent d'augmenter aux États-Unis, le président Donald Trump a repris mardi ses points de presse quotidiens sur la pandémie de coronavirus. Il a exprimé son soutien au port du masque facial. Les précisions de Patsy Widakuswara, correspondante de La Voix de l'Amérique à la Maison Blanche. Le récit est de Lionel Gaïma.
Selon les dernières recherches de Pew Research, un think tank basé à Philadelphie, 65% des adultes américains disent porter un masque dans les magasins ou espaces publics. Après des mois à minimiser l'importance de masques faciaux, le président Donald Trump a finalement tweeté une photo de lui-même portant un masque Lapland patriotique. M. Trump a repris ce mardi le point de presse sur le coronavirus à la Maison Blanche et pour la première fois, a affiché son soutien le plus ferme au port du masque.
J'ai le masque ici, je le porte et je vais l'utiliser avec plaisir, pas de problème. Je l'ai dit et je dis, si vous pouvez utiliser le masque, lorsque vous pouvez l'utiliser, si vous êtes proche l'un de l'autre, si vous êtes dans un groupe, je le mettrai quand je suis en groupe.
En avril, le Centre de contrôle et de prévention des maladies a déclaré que tous les Américains, pas seulement les agents de santé, devaient porter des masques. Mais le président a résisté et n'a pas mis de masque jusqu'au début de ce mois. Il a également évité de rendre le port de masque obligatoire, disant qu'il voulait que les gens aient la liberté. Un récent sondage ABC News Washington Post montre que 64% des Américains désapprouvent sa gestion de la pandémie. Norman Einstein est chercheur à l'American Enterprise Institute.
Cela lui crée encore plus de problèmes alors que la pandémie explose, jusque dans les régions où les gouverneurs républicains avaient suivi ses repères pour ouvrir, et maintenant, il commence à avoir des problèmes terribles avec la pandémie, et cela rend son travail beaucoup plus difficile.
Les États-Unis sont à plus de 140 000 morts et plus de 3,8 millions de cas, avec les nouvelles données de CDC suggérant que le nombre réel pourrait être 10 fois plus élevé. L'administration affirme que le nombre de cas a augmenté avec la multiplication des tests, mais les experts ne sont pas de cet avis. Pour William Schaffner, épidémiologiste au Centre médical de l'Université Vanderbilt, c'est le manque de politique nationale qui a conduit au chaos.
Les pays qui ont bien réussi ont une politique nationale claire qui place les gens de la santé publique au premier plan. Les dirigeants politiques ont aidé les responsables de la santé et ont transmis des messages clairs et cohérents à la population. La population comprend ce qu'est le programme et s'engage à coopérer. C'est la formule du succès. Mais en laissant cela au gouverneur, c'est la formule pour le chaos.
That's a formula for chaos. Malgré l'augmentation des cas, les Américains affluent vers les lieux des vacances d'été et différents États ont des règles différentes, de la Floride à la Californie.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le secrétaire d'État Mike Pompeo a déploré la détention par les autorités du Parti communiste chinois du juriste chinois Sun Jianggong, qui aurait été amené de son domicile le 6 juillet. Nous avons été profondément troublés d'apprendre que le PCC a arrêté Sun Jianggong pour avoir critiqué le régime répressif du président Xi Jinping et la mauvaise gestion par le PCC de la pandémie de COVID-19. Il devrait être libéré et il disait simplement la vérité. Mais la vérité est quelque chose que le PCC refuse de reconnaître. Le secrétaire Pompeo a déclaré que les autorités chinoises n'avaient pas dit la vérité sur le COVID-19 et que maintenant des centaines de milliers de personnes à travers le monde sont mortes. Nous avons besoin de la vérité. Il s'agit de la science, pas de la politique. Et le Parti communiste chinois doit tenir un langage clair au monde concernant ce virus. Le secrétaire Pompeo a souligné que le monde ne connaît toujours pas l'identité du patient zéro, c'est-à-dire le premier être humain infecté par ce virus. Et tandis que Pékin a déclaré que l'Organisation mondiale de la santé peut venir en Chine pour enquêter sur les origines de la pandémie, le secrétaire Pompeo a déclaré « Nous devons nous assurer que les bonnes personnes sont là pour s'engager dans cette enquête et nous avons besoin de vraies réponses et non d'une solution politique superficielle. » Il a également noté que Pékin a affirmé pendant des mois avoir signalé l'épidémie à l'OMS. Maintenant, nous savons que ce n'est pas vrai. Nous savons que le bureau de l'OMS en Chine a signalé l'épidémie seulement après avoir pris connaissance d'un communiqué de presse de la Commission municipale de la santé de Wuhan. Le manque de crédibilité de Pékin au sujet du COVID-19 a aidé à montrer au monde les vrais visages du Parti communiste chinois, a déclaré le secrétaire Pompeo. Et la tromperie du PCC est manifeste dans de nombreux domaines. Par exemple, a-t-il noté dans sa description ridicule des horribles camps d'internement du Xinjiang comme des camps de formation professionnelle?
ainsi que l'imposition d'une loi sur la sécurité nationale draconienne qui sape considérablement l'état de droit de Hong Kong, malgré les assurances de Pékin dans la déclaration conjointe sino-britannique déposée à l'ONU que Hong Kong bénéficierait d'un degré élevé d'autonomie et avait promis que les libertés civiles resteront intactes. Le secrétaire d'État Pompeo a déclaré qu'il est convaincu plus que jamais que les peuples libres et pris de démocratie du monde reconnaîtront l'impact dangereux du PCC à l'intérieur et à l'extérieur de la République populaire de Chine et se mettront ensemble pour préserver la souveraineté des nations où règne la primauté du droit au profit de la population du monde entier.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.